Laetitia, on va tout vous expliquer. On va vous expliquer comment vous allez pouvoir surfer sur Internet en vous passant des géants du net, car vous savez que ceux-ci sont dangereux et représentent une menace pour votre vie privée.
Et donc, quelle vie privée ? D'accord, super, merci.
On vous retrouve à 11h pour une autre page d'information. Et pendant ce temps-là, on va parler du net, des logiciels libres, des boîtes mail qui ne sont pas forcément sur Gmail ou sur Hotmail, avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur Twitter, car nous sommes sur Twitter. Nous appelons Service Public FI. L'accident de Michael Schumacher révèle une nouvelle fois l'état catastrophique des médias. Vous vous demandez quel lien peut bien exister entre l'accident de ski du champion automobile et l'information que l'on nous sert. Eh bien voilà, depuis cette chute de ski, personne ne comprend comment un choc a priori peu violent, en tout cas en apparence, a pu provoquer un traumatisme crânien et plonger le pilote de F1 dans un coma aussi profond. Or aujourd'hui, quelques mois après le drame, une hypothèse surgit mezza voce, le cerveau de Schumacher n'aurait pas été endommagé par la chute directement, il n'aurait été endommagé qu'indirectement par cette chute. La pierre, initialement montrée du doigt, ne serait pas l'unique coupable. C'est la caméra qu'il portait sur son casque, une GoPro, et même plus précisément le pilier de la GoPro, le petit tube de métal qui maintient la caméra sur le casque, qui aurait causé le traumatisme. Alors je suis évidemment incapable de vous dire si la GoPro est effectivement responsable de l'état actuel du champion. Mais ce que je sais, c'est que les journaux se sont bien gardés de l'écrire. Et pour une bonne raison, GoPro est aujourd'hui un gros annonceur. Enquêter sur les dommages causés par la caméra aurait fait désordre. Et ce, d'autant plus que GoPro a été introduit en bourse en juin dernier, soit 3 mois après le drame. Attention, je ne dis pas qu'un complot GoPro existe, mon hypothèse est bien plus pessimiste que cela. Les médias du monde entier se sont auto-censurés pour ne pas s'aliéner un gros annonceur. Tout cela pour vous dire que si un jour un homme meurt parce qu'il a avalé son iPhone ou bien devient idiot à cause de Netflix, nous ne le saurons jamais. Comme dans le cadre Schumacher, on accusera les pierres parce que pour l'instant, aucun gros acteur du marché publicitaire ne vend des pierres.
France Inter, service public. Guillaume Erner.
Un autre Internet est-il possible ? Peut-on naviguer sans Google, Gmail, Microsoft et consorts ? Pour en parler, je suis en compagnie tout d'abord d'Éric Léandry. Bonjour. Éric Léandry, vous êtes cofondateur de Quant.com, un moteur de recherche européen alternatif qui ne vous traque pas, un alternatif évidemment à Google. Vous nous expliquerez comment ça fonctionne, comment vous vivez et quels sont les bénéfices que l'on peut attendre donc d'utiliser Quant plutôt que Google. En face de vous, Stanislas Sabatier, bonjour. Vous êtes fondateur de Mailden, une société qui commercialise des comptes email sécurisés et privés. Sécurisés et privés pour que l'on conserve donc une vie privée. Et en échange de quoi vous ne vivez pas de la publicité mais des sommes que l'on vous verse. Là aussi, vous nous expliquerez comment tout ceci fonctionne. Lionel Allorge, vous êtes président de l'association April qui fait de la promotion et de la défense du logiciel libre. Un logiciel libre, c'est la preuve que finalement on peut surfer, on peut travailler sur un ordinateur sans avoir recours aux produits Microsoft, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Les logiciels libres proposent une vaste alternative de logiciels qui sont respectueux des libertés des utilisateurs.
Alors, ces logiciels sont par exemple un traitement de texte, un tableur.
Tout à fait. Vos auditeurs connaissent peut-être Firefox, qui est un navigateur sur Internet. On peut citer aussi VLC, qui est un lecteur de fichiers audio et vidéo, qui est assez réputé. Et tout ça, ce sont des logiciels libres.
Donc, ils sont gratuits et on peut à la fois les utiliser lorsqu'on est un néophyte, évidemment, ils sont accessibles, il ne faut pas être informaticien pour les utiliser, et il est également possible de les améliorer, là cette fois-ci, si on est informaticien, tout le monde peut participer à l'élaboration de ces logiciels libres.
Voilà, tout à fait, ce sont des logiciels qui permettent aux utilisateurs de s'impliquer dans le développement des logiciels, et à minima de vérifier ce que font les logiciels, donc ce qui est important pour ce qui nous concerne aujourd'hui.
Et puis, au cœur de tout cela, il y a évidemment la notion même de vie privée, puisque ce que l'on peut d'abord reprocher à Google, Facebook et consorts, c'est d'utiliser la vie privée des individus dans la manière dont ils se servent de leur boîte mail, de leur message Facebook. La vie privée est si importante que cela? Bonjour Adrienne Charmette-Alix, vous êtes coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, association de défense des libertés numériques. Si on n'est pas un terroriste, en quoi a-t-on à redouter ce que Google ou ce que Facebook font de nos données privées?
Bonjour. Alors, il n'y a pas besoin d'être un terroriste pour avoir envie et besoin d'avoir une vie privée. Ça semble être une notion élémentaire. Vous ne vivez pas avec un appartement avec des murs en verre. Vous avez envie d'avoir votre intimité. Vous n'avez pas envie que votre facteur ouvre votre courrier. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous propose, qu'on vous imagine si vous avancez dans la rue et en permanence, suivant ce que vous avez dans la tête ou les conversations que vous avez eues avec des gens précédemment, on vous envoie des pubs ciblées en permanence et on analyse tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous écoutez comme musique, etc. La vie privée, c'est simplement avoir sa part de tranquillité, d'intimité, et on n'a pas besoin d'avoir quelque chose à cacher pour avoir le droit à ça.
Avez-vous l'impression que ce combat, votre combat, puisque c'est celui que vous menez à la Quadrature du Net, est un combat qui commence à se diffuser dans l'opinion, ou bien a-t-on encore tendance à croire qu'il faut être, encore une fois, Ben Laden pour avoir quelque chose à cacher?
Non, je pense que... Un des avantages paradoxaux de l'affaire Snowden, c'est de se rendre compte...
L'affaire Snowden, donc cet homme...
Cet homme qui a révélé l'importance et le côté très massif des écoutes des services secrets américains sur les internautes du monde entier.
Dévoilant qu'il y avait une collaboration étroite entre ces grandes entreprises du net et des services de renseignement.
Voilà, qui avaient accès de manière directe aux services de Google, aux services de Microsoft, etc., selon la loi américaine. Paradoxalement, cette affaire-là qui semble assez lointaine, a fait prendre conscience aux gens de manière massive qu'ils avaient beaucoup de données qui intéressaient beaucoup de gens et qu'il fallait peut-être réfléchir à ce qu'on avait à en faire.
Eh bien, figurez-vous qu'on a justement un extrait d'un message diffusé par Edward Snowden. C'était en Noël dernier. Voici la voix d'Edward Snowden.
A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be.
Que dit Snowden dans ce message? Il dit « Un enfant qui naît aujourd'hui grandira sans aucune notion de vie privée. Il ne saura jamais ce que signifie d'avoir un moment privé pour lui-même, une pensée non enregistrée et non analysée. Et c'est un problème parce que la confidentialité est importante. La vie privée est ce qui nous permet de déterminer qui nous sommes et qui nous voulons être. Il y a la vie privée par rapport au pouvoir public, il y a la vie privée par rapport aux multinationales et on peut se battre, peut-être faut-il même se battre pour la conserver. On écoute Substract, New Dorp, New York, et tout de suite après, on continue à évoquer les possibilités qui nous sont offertes pour surfer sans le secours des géants du net. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes, leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from, never seen the color yellow, never seen the sun.
And he thinks I'm the negative one.
Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock.
My girl's got a little shtick, keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's the tongue.
You think I'm the negative one.
Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock.
New Dorp, New York.
Black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs.
Late nights are black as the lights. White women singing under dying lights. Baseball bats, I never hit home run.
I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a minimum. Leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth operator looking like a bum. My girl got a city to run. Got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun.
New York, New York.
Service public sur France Inter. Comment continuer à surfer sur Internet sans le secours des géants d'Internet? Comment protéger sa vie privée? Comment aussi protéger son porte-monnaie? Nous sommes en compagnie de plusieurs acteurs de ce mouvement. Tout d'abord Lionel Allorge, président de l'association April qui milite pour le logiciel libre. Éric Léandry, cofondateur de Quant. Quant est un moteur de recherche qui concurrence Google. Stanislas Sabatier, fondateur de Melden, une société qui vous propose un email sécurisé et privé. Et puis enfin, Adrienne Charmette-Alix de la Quadrature du Net, une association qui combat pour les libertés sur le net. Et pour vous montrer que tout ceci est très simple, on a fait un test. On a pris quelqu'un que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, Louis Boson, et on lui a montré comment on se servait de Quant pour montrer que tout le monde pouvait se servir de Quant, même quand on n'a pas toujours l'habitude d'Internet. C'est le test du jour dans Service Public.
Un, deux, un, deux.
J'ai testé pour vous la pilule Nobab. Je ne peux rien dire encore, mais il n'est pas impossible qu'il faille la prendre deux fois par jour.
Un, deux, un, deux.
Nous allons maintenant faire le test de capacité à l'autorégulation thermique. Mettez vos casques.
Bonjour Lénora.
Bonjour Guillaume.
Alors, comment ça s'est passé avec Louis Boson? Vous l'avez fait surfer?
Tout à fait, je l'ai fait surfer sur le net. Alors, Louis Boson, qui anima durant 13 ans sur notre station le jeu des 1000 euros et qui fait aujourd'hui partie de la bande originale de Guy, a donc accepté de se lancer dans cette aventure informatique. Louis Boson a un usage modéré d'Internet. Il préfère la lecture papier au numérique et surtout ne souhaite pas y passer trop de temps. Sur la toile, il recherche avant tout la simplicité. Alors, avec votre collègue Yannick Hiller, responsable marketing de Quant, nous sommes allés chez lui pour installer ce moteur de recherche sur son ordinateur. Alors, est-ce que vous compterez bientôt Louis Boson parmi vos nouveaux utilisateurs? La réponse dans ce reportage.
Entrez.
Bonjour Monsieur Boson.
Entrez, bonjour.
C'est un service à domicile pour rendre votre ordinateur libre et indépendant.
Eh bien écoutez, j'attends que ça. Bonjour
Monsieur Boson.
Entrez par là.
Alors moi, Internet, je m'en sers pour tout ce qui est, alors évidemment, mail, email. Alors donc, j'ai écrit mes livres là-dessus, je consulte alors Wikipédia, tout ce qui est renseignement, tout ce que, dans la bande originale de Nagui, il faut toujours que j'ai une information qui m'est passionnée dans la semaine. Alors voilà, bon, je cherche, voilà. Voilà comment je m'utilise mon ordinateur.
Est-ce que vous utilisez Google pour faire vos recherches?
Ah oui, 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 c'est vraiment le principe pour moi. Je suis Google, incontestablement.
Vous utilisez Google et vous avez même Google Chrome comme navigateur.
En vrai, tout ça, je joue avec ça sans trop savoir ce que j'utilise. Hein.
Et la boîte mail qui
la boîte de messagerie, voilà. C'est Gmail.
Alors, en fait,
donc c'est la boîte de messagerie de Google.
Voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement, Yannick?
Alors, en fait, en réalité, ce sont souvent des choses qui sont installées par défaut. Mais en général, quand on clique et que ça apparaît tout de suite, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière.
C'est même sûr.
Et c'est pour cela que nous avons lancé notre moteur de recherche quant.com, qui est à notre sens une brique, une solution pour permettre aux utilisateurs, aux gens, de pouvoir se protéger au quotidien.
Alors justement, vous allez nous montrer à quoi ressemble ce moteur de recherche Quant.
Avec grand plaisir. Alors, je vais vous entrer l'adresse qwant.com.
qwant.com.
Voilà. Alors, nous y voici. Alors, on fait un test.
Faisons un test.
Tapons par exemple prix Nobel ou je ne sais.
Je le tape ici. Hein.
Dans la barre de recherche.
Alors, on sort prix Nobel alors.
Eh bien, on tape prix Nobel.
Oui, alors, qu'est-ce qui apparaît?
On arrive ici sur ce qu'on appelle la vue colonne. Parce que nous avons choisi de séparer le web en 5, comme je vous l'ai dit. D'une part, vous avez le web classique, avec les sites institutionnels. Vous avez l'actualité. Tout ce qui est dit dans la presse, dans les médias, remonte ici.
Ça peut être très utile.
Tout à fait. Nous avons le social. Toutes les mentions du terme prix Nobel dans les réseaux sociaux remontent là.
Donc, il y a une colonne réservée aux réseaux sociaux.
Tout à fait.
Vous tweetez, Monsieur Boson?
Non. Je ne tweete pas. Je ne suis pas à Facebook, je ne suis pas... Là encore, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas la peine. J'ai mes rapports quotidiens avec mon monde. Non, ça m'aide. Non, je ne suis pas. Alors, disons que je ne suis pas du tout... Je suis en marge d'une société. Hein, qu'on
bon, alors, cette colonne réseaux sociaux n'intéressera pas M. Boson.
Oui et non.
Je pourrais m'y mettre. Mais bon, pourquoi pas.
On a des vidéos aussi sur compte.
Exact. Un nom, un artiste qui vous plairait.
Alors, Schubert. Allez, on met Schubert. Hein, Schubert. C'est bien Schubert. Alors, je ne sais pas si j'écouterai. Je recherche plutôt des documentations plutôt que d'écouter de la musique, je l'ai dit, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est très vivant.
C'est terminé, on ferme et on retourne à la page de Quant.
Et alors, est-ce que ça vous plaît justement qu'on sépare en 5 colonnes?
Je vais m'y habituer. C'est plus vivant. C'est beaucoup plus vivant. Écoutez, très sincèrement, hein, moi je suis assez fermé, je suis assez victime d'habitude, hein, comme tout le monde. Mais là, ça ne me fait pas peur du tout, là. Ah. Ça me fait plaisir, vraiment. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour utiliser Quant, là? Parce que je ne l'ai pas, Quant.
Alors.
Mais il faut quelque chose, que j'adapte quelque chose à mon ordinateur.
Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Vous avez accès sur tous les navigateurs. Quant.com, quand vous le tapez n'importe où, ça fonctionne.
Même Google accepte Quant.
Même Google accepte Quant.
Il aurait pu le refuser.
Il
hein.
aurait pu le refuser.
Il ne se protège pas bien, finalement. Mais alors, quand je me sers de Quant,
oui.
Quand j'envoie mes emails, ils seront plus protégés parce que je me sers de Quant?
Du tout. Quant, c'est un moteur de recherche.
Voilà.
Gmail
envoie des emails. Donc, je suis encore seul dans la nature, quoi.
Mais justement, c'est de là que vient la curiosité de se dire quelles sont les alternatives à Gmail, par exemple.
Bientôt, Quant aura sa messagerie.
Tout à
et
fait.
Vous et pourrez vous passer de Gmail à Quant Mail. Voilà.
Tout à fait.
Mais écoutez, je vais me lancer. Si vous entendez hurlements demain matin, vous ne serez pas là. Tant mieux pour vous.
Merci Louis Boson, merci Lénora Grief. Maintenant, grâce à vous Lénora, Louis Boson a appris à se servir de Quant. Quant, c'est donc ce moteur de recherche alternatif à Google. Comment ça fonctionne, Eric Léandri? Quels sont les capitaux que vous avez utilisés pour monter ce moteur de recherche?
On a utilisé plusieurs millions d'euros, en fait, d'abord français pour la plupart et ensuite internationaux. Et aujourd'hui, on a rajouté encore plusieurs millions d'euros, voire même dans la dizaine, pour continuer l'aventure avec des capitaux cette fois venant d'Allemagne.
Mais ces millions, ils viennent d'où?
Ils viennent d'investisseurs privés, tous privés. Hein. Tout ça, c'est de l'argent privé.
On est tous privés à un moment ou un autre. Mais...
Oui, sauf l'argent public. Mais pour le reste, on est tous privés. Donc ces investisseurs.
Qui
sont...
nous dit qu'il n'y a pas derrière Quant un autre géant du net qui ne voudrait pas se faire connaître?
Alors, deux choses. Et une des deux choses qui est la plus intéressante, c'est le dernier investisseur, Axel Springer, qui est lui très connu, qui est un grand groupe de médias allemands. Nous a obligé, et on en est très heureux, et on l'a signé dès demain, à écrire dans son investissement que tant qu'on préservait la tranquillité de nos internautes, tant qu'on préservait la vie privée de nos internautes, il serait au capital. Si jamais on changeait de politique, si jamais on changeait de notre politique générale depuis le début, ils sortiraient du capital et ils arrêteraient de nous aider et de nous financer. Ce qui fait quand même...
Et quel est son intérêt à lui?
Son intérêt à lui, c'est le CEO d'Axel Springer et la personne qui a fait l'article expliquant que maintenant, il commençait à avoir vraiment peur de Google. Et quelle est sa peur? Sa peur est très simple. Aujourd'hui, vous avez chez Google une envie de verticaliser. C'est-à-dire, quand Google fait Google Shopping, il détruit des milliers de sites qui faisaient du classement pour le shopping. Quand ils font du Google Travel, ils détruisent les sites qui faisaient tout simplement du classement pour vos voyages, comme TripAdvisor ou d'autres. Donc aujourd'hui, quand Google commence à faire des niches, quand Google commence à être concurrent des propres sites qui sont sur l'Internet, ça commence à être très difficile de jouer contre le numéro 1.
C'est le premier danger de Google, le fait qu'aujourd'hui sa position de monopole absolu sur Internet peut lui permettre effectivement de tuer tous les autres acteurs et donc d'atteindre une taille telle qu'il deviendrait peut-être l'une des sociétés les plus puissantes qui ait jamais existé. Et puis, il y a la question de la vie privée. La question de la vie privée, elle n'est absolument pas abstraite, elle est même très concrète. Si on fouille dans ces conditions d'utilisation des services Internet, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne fait évidemment jamais, mais que vous avez fait pour nous, Stanislas Sabatier, fondateur de Mailden.
Oui, alors par exemple, si on regarde les conditions générales d'utilisation de Google, vous pouvez voir marqué noir sur blanc, nos systèmes automatisés analysent vos contenus, y compris les emails. Cette analyse aura lieu lors de l'envoi, de la réception et du stockage des contenus. Vous accordez à Google une licence dans le monde entier d'utilisation, etc., etc. On peut faire la même chose chez Yahoo. Yahoo analyse votre courrier électronique. C'est dans les conditions générales d'utilisation de ces services.
Pourquoi analysent-ils notre courrier électronique ? Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces données qui, aujourd'hui, sont récupérées par les moteurs de recherche ou les fournisseurs d'adresses e-mail?
Eh bien, en fait, c'est leur modèle économique. Ils vendent de la publicité. Donc, ils ont besoin de récolter le plus d'informations possibles sur les utilisateurs de leurs services. Et donc, plus ils vont fournir de services, plus ils vont pouvoir récolter de données. C'est pour ça qu'ils se lancent dans les voyages, dans ceci, dans cela. Et quel est le service qui vous donne le plus d'informations sur vos utilisateurs? Eh bien, c'est le mail. Parce que quand vous ouvrez tous les emails, toutes les pièces jointes, et que vous scannez tout, et que vous gardez une copie de tous ces éléments-là pour pouvoir faire du profilage marketing, vous avez le plus d'informations possible sur les personnes que vous hébergez.
Google gagne de l'argent, il en gagne énormément. Il gagne de l'argent en mettant de la publicité, évidemment, sur Internet, de la publicité qui est associée à vos goûts, c'est-à-dire que quand vous cherchez poussette une fois sur Google, bah vous aurez beaucoup de publicité de poussette ensuite. Alors, quand
c'est
vous
même
naviguerez...
plus vicieux. C'est même plus vicieux parce qu'il suffit que vous discutiez avec vos proches dans des emails, que vous disiez que un tel attend un enfant, machin, que c'est bientôt son anniversaire, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme cadeau, etc. Comme par hasard, vous allez avoir des publicités ciblées qui vont apparaître et peut-être des publicités de poussettes sans même que vous ayez prononcé le mot poussette. Donc c'est ça le risque.
Et puis l'autre modèle économique de Google, toujours sur le même mode, on va dire, eh bien ce mode consiste à analyser ces données et à les vendre à d'autres sociétés.
Alors, à les vendre, ils s'en défendent, donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils en font. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils en font. Et qu'ensuite, le problème du numérique, c'est qu'à partir du moment où vous avez d'énormes bases de données d'informations personnelles, il y a un jour ou l'autre, ces informations personnelles vont se retrouver sur Internet. Et donc, ces masses de données sur vous-même, vous n'avez jamais la garantie qu'à un moment ou un autre, elles ne vont pas se retrouver dans les mains d'une agence gouvernementale, d'une autre entreprise commerciale, de je ne sais qui d'autre.
Alors, il y a donc ce risque-là avec les moteurs de recherche. On se dit que lorsqu'on achète un traitement de texte à Microsoft, on n'a plus ce risque. Et pourtant, eh bien, on ne sait pas si ce risque n'existe pas, Lionel Allorge. On ne sait pas ce qui se passe quand on utilise un traitement de texte Microsoft. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, parce que donc, ce n'est pas un logiciel libre. Donc, ça veut dire que c'est une sorte de boîte noire. On y entre des données en ressortent, mais on ne sait pas comment c'est traité à l'intérieur. Et on n'a pas le droit d'aller voir. Donc le gros intérêt des logiciels libres, c'est de proposer des alternatives où des gens compétents, bien sûr, pas l'utilisateur lambda, mais des gens qui ont un petit peu d'expérience en informatique, vont pouvoir les vérifier que le logiciel fait bien ce qu'il prétend faire.
Ce qu'il y a d'un peu effrayant et aussi d'extrêmement utile dans l'informatique, c'est que lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, vous savez ce que vous faites, mais vous ne savez pas ce que l'ordinateur fait.
Voilà, sauf à installer un système complet de logiciels libres, ce qui est aujourd'hui très facile à faire, et ce qui permet à ce moment-là de garder la maîtrise de son informatique.
Nous avons un auditeur au 01 45 24 7000, Félix, qui nous appelle de Paris. Bonjour Félix.
Bonjour France Inter.
Nous vous écoutons Félix. Alors, vous allez parler librement.
D'accord. Alors moi, ce qui m'énervait un petit peu, c'est notamment quand on circule sur Internet avec les vidéos. C'est-à-dire que
depuis quelques années, notamment via YouTube, mais d'autres, on nous impose entre 15 à 20 secondes de publicité, de messages, etc. Et qu'on n'a pas moyen, à part à installer des extensions ou d'autres logiciels, de bloquer justement ces publicités. Et ça, franchement, je ne comprends pas comment on a réussi à se laisser imposer ces 15 secondes ou 20 secondes de pub obligatoire.
Comment a-t-on réussi à imposer cela aux internautes, Stanislas Sabatier ?
Mais tout simplement parce que c'est un service gratuit. Il faut bien que ce service soit payé par quelqu'un. Donc, fournir des vidéos, entretenir des serveurs de vidéos, etc., c'est un coût énorme. Donc, le seul moyen de financer ces services-là, c'est de le faire via la publicité. Si vous ne voulez pas de publicité, il faut aller vers des modèles alternatifs et pas uniquement des modèles publicitaires.
C'est effectivement très important d'insister là-dessus. La gratuité, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous propose un service gratuit, cela signifie que quelqu'un paye.
Non, le monsieur en face vient de nous prouver exactement l'inverse. Linux, c'est gratuit, c'est totalement gratuit et vous n'êtes pas le service. Quant, c'est gratuit, c'est totalement gratuit et vous n'êtes pas le service. Ça, c'est encore la bonne nouvelle histoire pour nous servir une nouvelle sauce.
Alors attendez, parce que si on essaye de reprendre cette notion de gratuité, ce qui est fait avec le logiciel libre Lionel Allorge, c'est tout simplement qu'il y a des bénévoles qui, en quelque sorte, payent de leur temps eux-mêmes pour développer ces logiciels.
Alors, il n'y a pas que des bénévoles, hein, c'est une des manières de développer le logiciel libre, mais il y a aussi beaucoup de structures qui payent des salariés, des professionnels, des informaticiens qui vont développer ces logiciels. Ça peut être des associations, ça peut être des fondations, par exemple, donc qui font appel à des dons pour financer ce qu'ils font. Notamment la fondation Mozilla qui fait Firefox, dont on parlait tout à l'heure, fonctionne sur ce modèle-là.
Et Quant, quel est le modèle économique ? Vous lancez...
Quant est très simple modèle économique. On va revenir il y a 5 ans en arrière. On va revenir à l'époque où rajouter des cookies et vous traquer absolument partout sur Internet.
Les cookies, ce sont les petits programmes qui viennent se glisser sur votre ordinateur.
Ce sont des tout petits fichiers qui viennent se mettre sur votre ordinateur et dans lesquels on va remplir tout ce que vous êtes en train de faire au fur et à mesure de votre navigation sur Internet. Mais encore une fois, le cookie, c'est encore un mauvais mot. On utilise des cookies, c'est juste pour changer la couleur en haut dans Quant. Et chez nos amis de chez Google, par exemple, j'appelle ça des cheesecakes parce qu'ils sont tellement pleins de tout ce que vous faites.
Des gros cookies.
Exactement, d'énormes cookies. Et c'est très différent. Donc, en fait, le cookie, c'était un système technique qui aidait à améliorer votre navigation et c'est devenu un tracker. Et à côté de ça, il y a 5 ans, personne ne vous traquait comme aujourd'hui. Personne. Et pourtant, ces géants de l'Internet valaient déjà des centaines de milliards. Ils sont juste passés à traquer tout pour valoir encore plus d'argent. Donc, il y a 5 ans, c'était de l'affiliation. Vous cliquez sur un lien comme de shopping. Et si jamais vous achetiez quelque chose ou un voyage, on vous reversait un peu d'argent. Ben, on est resté sur ces vieux modèles qui ont fait leur preuve et sur lesquels les gens faisaient déjà énormément d'argent.
On écoute M, Monde Virtuel, un disque choisi par Thierry Dupin avec Stéphanie Texier à la réalisation.
C'est la mode Facebook, c'est-à-dire que tu fais un truc et tac, tu vas écrire ce que t'as fait, tu vois. Donc ça donne par exemple, je sais pas, 15h, Jean-Jacques a mangé un paquet de Pépito. 15h30, Jean-Jacques a plus faim. Et maintenant, il y a les loisirs Facebook. Alors c'est plutôt sympa parce qu'on te les propose. Jérôme, alors t'as une petite vignette. Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent prendre l'apéro le matin? Un instant, je finis de m'inscrire au groupe de ceux qui apprennent par cœur les horaires du RERB. Et je vous rejoins.
Service public sur France Inter, un service public consacré à un autre Internet, cet Internet qui est possible, navigué sans Google, Gmail, Microsoft et consorts. Nous sommes en compagnie de Lionel Allorge qui promeut le logiciel libre, Éric Léandry de Quant, un moteur de recherche concurrent de Google, Stanislas Sabatier qui propose Mailden, un mail qui vous permet de sauvegarder votre vie privée, et Adrienne Charmet-Alix de la Quadrature du Net, une association qui milite pour la vie privée. Et selon vous, Adrienne, on a bien un besoin.
Oui, on en a besoin. On a besoin même de façon un peu plus large, parce qu'on ne milite pas que pour la vie privée, mais plus généralement pour les libertés fondamentales sur Internet, de savoir un peu de quel Internet on a envie et de quel modèle on a envie. Là, on a parlé un peu d'alternatives ou de questions d'argent, de questions de comment, pourquoi est-ce qu'on est souvent le produit au lieu d'être la personne servie. Ce qu'il faut peut-être revenir un peu à l'histoire d'Internet, d'Internet qui était très décentralisé, puis qui s'est concentré au fur et à mesure des années sur quelques grosses plateformes, quelques gros services comme Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, etc. Et ces services ont donc, comme on l'a dit précédemment, basé leur modèle économique sur l'exploitation de nos données. Donc ce qui est important peut-être de réfléchir, c'est de savoir si la solution n'est pas à revenir à une décentralisation, si l'alternative à la surveillance n'est pas cette décentralisation, la reprise en main par les utilisateurs de leurs données, de leurs outils, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent partager, pas partager. Et on est vraiment dans des enjeux très politiques, en fait, qui concernent même les gouvernements, de savoir ce qu'ils vont pousser ou pas pousser, qu'est-ce qu'ils font, eux, de la surveillance, qu'est-ce qu'ils font de...
C'est de la politique, mais c'est aussi de l'économie, tout simplement parce que ces acteurs du net, on le voit bien, sont aujourd'hui parmi les premières capitalisations boursières. Et par conséquent, il n'est pas anodin, évidemment, de faire de la politique sur ces terrains, quand
oui,
même.
Oui, oui. Et puis, on se retrouve avec une situation où ces acteurs qui sont absolument monstrueux et énormes sont toujours traités un petit peu à part. On se dit, oui, c'est compliqué. L'Internet, c'est une nouvelle technologie. On n'arrive pas trop à savoir comment ça fonctionne. Mais ça n'est plus vrai. Ça fait plus de 20 ans que l'Internet est grand public. Ça fait des années qu'on devrait arriver à avoir une vision politique.
Mais néanmoins, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. On ne sait pas, par exemple, si Microsoft utilise d'une manière ou d'une autre ce que l'on tape sur son traitement de texte. On dit donc que Google ne vend pas ses données, on ne sait pas s'il ne les loue pas ou s'il n'y a pas un artifice tout simplement pour gagner de l'argent avec ça. C'est quand même un monde très opaque.
C'est un monde très opaque, mais ça tient à nous de faire en sorte qu'il soit moins opaque. Si les internautes, les utilisateurs exigent de ces entreprises qui sont à leur service, comme n'importe quelle entreprise, on est des clients de ces entreprises. Si on décide de s'en aller, si on décide d'exiger d'avoir plus de transparence et si on décide de reprendre la main sur les outils qu'on utilise, ils vont être obligé de changer. Facebook a changé un certain nombre de choses sur ses conditions d'utilisation, sur les réglages de confidentialité par exemple. Ils avaient un moment où ils étaient partis sur tout est public par défaut. Les gens se retrouvaient en disant mais comment ça se fait, j'avais pas voulu que ce soit public. Ils ont été obligés de revenir en arrière. C'est rien du tout et on continue à être largement pisté de partout. Mais la pression du consommateur, comme dans n'importe quel domaine économique, devrait pouvoir faire bouger ces entreprises-là.
Nous avons Brigitte au 01 45 24 7000. Bonjour Brigitte, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Voilà, je vous remercie de prendre ma question. J'aurais aimé savoir comment fonctionne le référencement sur le moteur de recherche Quant. Voilà.
Eh bien, on va poser la question à Éric Léandry, qui est cofondateur de Quant. Comment ça fonctionne, Quant ?
En fait, on a des robots, donc des crawlers qui se baladent sur Internet, qui viennent voir vos sites Internet. Et puis derrière, on a un ranking qui s'appelle YouRank. En fait, on a utilisé des réponses du social ou des commentaires ou des choses dans les blogs et autres pour ranker vos différents sites. Et puis derrière tout ça, si jamais votre site n'est pas référencé, vous pouvez aussi nous écrire. Et avec plaisir, on fera passer nos crawlers chez vous pour voir si vous terminez dans la catégorie news, social ou vidéo, photo et sinon internet, bien évidemment.
Ranké, ça veut dire classé.
Classé, oui.
Et c'est évidemment essentiel dans les moteurs de recherche, puisqu'il est non seulement important de trouver ce que l'on veut, mais aussi d'ordonner ce que l'on trouve en faisant des classements. Et sur Twitter, il y a beaucoup de trolls qui s'attaquent à Quant. Des trolls, vous savez, ce sont des petits animaux qui écrivent des choses pas forcément toujours gentilles. Alors on dit Quant, ça marche pas, vous faites de la pub à Quant, c'est très lent. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques, Eric Léandre?
Alors, très lent, comme on fait partie des 90% de sites les plus rapides sur la toile complète, il va falloir peut-être passer sur Quant, comme ça, ça va permettre de faire le test. Pour le reste, Quant, ça a un an et demi, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin, c'est en train d'indexer Internet progressivement, et on essaye de faire au mieux et avec plaisir pour toutes les critiques constructives, pour nous expliquer ce qu'on fait de moins bien, ce qu'on pourrait faire de mieux, et avec grand plaisir pour améliorer le service tous les jours. D'ailleurs, on a énormément de critiques qu'on a souvent pris en considération et on va continuer comme ça. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez de meilleures idées, on les écoutera.
Quant, c'est Q-W-A-N-T, je le précise pour ceux qui nous écoutent. Comment gagnez-vous votre vie? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir? Si vous avez fondé une entreprise pour gagner de l'argent, c'est bien naturel. Google, on a compris comment il gagnait de l'argent. Comment vous gagnez le vôtre?
Alors, sur Quant, vous avez une partie shopping qui a sa place dans shopping. Et donc, si vous cliquez sur un iPad et que vous achetez un iPad, j'aurais gagné un peu d'argent. Mais c'est sur shopping. Ça n'est pas dans web, ça n'est pas dans social. Et si cette partie shopping ne vous intéresse pas, vous pouvez même la désactiver. Donc, à vous de voir. Voilà très simplement comment on va gagner de l'argent en laissant les gens voir s'ils veulent acheter quelque chose.
Stanislas Sabatier, vous gagnez de l'argent avec Mailden en vendant une adresse pendant un an. C'est 30 euros pour un an. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Alors, c'est un service de mail qui fonctionne pour l'utilisateur comme n'importe quel autre service de mail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans la façon dont on utilise son mail. Il y a deux différences fondamentales. C'est un, vous l'avez dit, on paye, donc on a un contrat de service et Mailden s'engage dans le contrat qu'elle signe avec ses clients, du coup, puisque ce sont vraiment des clients, à protéger ses données personnelles et sa vie, et le peu de données qu'on peut se retrouver à collecter, puisque malgré tout, comme on opère un service de email, on collecte quelques données techniques. Et le deuxième aspect, c'est que nous avons mis en place une technologie de chiffrage à la volée des emails qui font qu'une fois qu'un email est arrivé dans votre boîte mail, vous n'êtes dès lors que la seule personne à pouvoir l'ouvrir et le lire, puisqu'il est chiffré et que pour le déchiffrer, il faut votre mot de passe. Donc c'est une différence fondamentale avec les autres services, c'est que contrairement aux autres services où les emails, qui sont des petits fichiers finalement qui circulent en clair sur Internet, se retrouvent en clair sur des serveurs et sont passer à la moulinette de logiciels, de profilage, etc. Nous, à partir du moment où votre email arrive dans la boîte mail, il est chiffré et vous n'êtes dès lors plus que le seul à pouvoir l'ouvrir.
Mais alors la conséquence de cela, en quelque sorte la faiblesse de cette force qui consiste donc à avoir des mails cryptés qui ne peuvent pas donc être lus par quelqu'un d'autre que vous, c'est que si d'aventure vous oubliez votre mot de passe, et bien là vous êtes fichu.
Vous perdez tout, oui. C'est le contrat, c'est le deal. Donc après,
vous perdez tout simplement parce que personne d'autre ne
pourra pas rouvrir
les emails. Et vous n'avez pas.
Et on n'a pas le mot de passe, donc on ne pourra pas rouvrir les emails. Oui.
C'est 30 euros par an, pour quelle capacité? Et par rapport à Google, ça donne quoi, par exemple?
Alors,
par rapport à Gmail?
C'est 30 euros pour 30 gigas de stockage et 50 alias. Donc ça nous situe à peu près au niveau des prix de Google Apps, qui est la version pro de Google. Version pro qui n'empêche pas que dans les conditions générales de la version pro, ils ont toujours accès à vos mails.
Qu'est-ce qu'il y a sous mon pouce? Eh bien, il y a un Rolling Stones Under My Thumb. Et tout de suite après, on continue à évoquer ce nouvel Internet qui pointe son nez. We'll be right back. Service public sur France Inter, un autre Internet est possible. Une émission préparée par Chantal Lemontagnier, Elodie Piel, Ariane Amadi. Et nous avons une possibilité pour qu'un autre Internet soit possible. C'est le logiciel libre, représenté ici par Lionel Allorge. Alors, il faut démystifier ce qu'est le logiciel libre. On peut aujourd'hui, quand on connaît rien ou vraiment pas grand-chose à Internet, utiliser un logiciel libre gratuit et sûr. Expliquez-nous comment, Lionel.
Oui, les logiciels libres peuvent s'installer sur votre système habituel, que ce soit Windows ou macOS. Donc, vous pouvez en trouver facilement sur Internet et vous les installez comme n'importe quel autre logiciel.
Quels sont leurs noms, par exemple ?
On a cité tout à l'heure Firefox, qui est un navigateur pour aller sur Internet. On peut citer LibreOffice, qui est une suite bureautique pour faire vos tableurs, vos courriers. Donc tout ça, ça peut être trouvé
facilement. Vos présentations. On retrouve la suite bureautique de Microsoft, gratuite sous forme OpenOffice. Et si on veut aller un peu plus loin, là c'est probablement un peu plus compliqué, si on veut utiliser un système d'exploitation qui soit un système d'exploitation libre comme Linux, ça est-ce que c'est envisageable aujourd'hui pour le néophyte ?
Oui, c'est envisageable parce qu'un peu partout en France, vous avez des groupes d'utilisateurs de logiciels libres qui font régulièrement des réunions où ils aident les gens à installer ces systèmes sur leur ordinateur. On appelle ça des install parties, et vous en trouvez régulièrement un peu partout en France. Et là, c'est le meilleur moyen de se faire accompagner.
Ça marche aussi bien sur PC que sur Mac ?
Alors, ça marche sur PC et sur Mac, mais là encore, le mieux, c'est de demander à quelqu'un qui l'a déjà fait et qui va pouvoir vous guider dans les différentes manipulations.
On a parlé de la vie privée, on a parlé de la manière dont les multinationales vendaient des données, on a peu parlé du piratage et de tout ce qui est virus. Lorsqu'on est sur un système d'exploitation Linux, on a moins de chances d'avoir des virus ?
Beaucoup moins. En pratique, il n'y en a aucun. Donc c'est vraiment un système qui est beaucoup plus sécurisé, essentiellement parce que dès le départ, il a été basé sur un système sécurisé, ce qui n'était pas le cas de Windows notamment.
Et puis parce que les gens qui lancent des virus s'attaquent à la majorité, c'est-à-dire à ceux qui sont sous Windows peut-être
aussi.
Bien
sûr, oui, il y a un effet de masse qui fait que si on s'attaque à Windows, on a plus de chances d'arriver à toucher un certain nombre de gens. Oui.
Nous avons Guylaine au 01 45 24 7000. Bonjour Guylaine.
Bonjour France Inter et merci de prendre la question. Alors d'abord, tout d'abord, je n'ai pas Internet chez moi, donc je consulte Internet dans une bibliothèque. Mmh. Et afin de mieux préserver mes données personnelles, je les saisissais sur une USB. Et on m'a conseillé de les stocker sur Dropbox, donc un site gratuit de Google. Et donc la question est de savoir les limites de la confidentialité de ce site et si mes données peuvent être justement utilisées par Google.
Alors, il y a beaucoup de réactions dans le studio. Je ne sais pas qui veut répondre, Éric Léandry.
Je ne sais pas qui vous l'a conseillé, mais c'était très bien la première idée. Hein. Votre clé USB, c'était vraiment le meilleur endroit. Et dans votre poche, c'était sûrement le meilleur endroit.
Et bien moi, je sais qui l'a proposé à Guylaine. Vous êtes toujours en ligne, Guylaine, donc vous pouvez réagir. Mais on est de plus en plus incité à utiliser des clouds, c'est-à-dire un stockage sur la toile. Et on l'est de manière aujourd'hui, je dirais, implicite. C'est-à-dire que vous arrivez, vous allumez votre ordinateur et voyez qu'on vous propose un cloud.
Oui, par exemple, l'affaire qu'on a entendue il y a quelques semaines de stars qui ont vu leurs photos diffusées sur Internet, c'est typiquement ce type de problèmes. Leur téléphone se synchronise automatiquement avec un cloud dont les conditions d'utilisation ne sont pas claires. Ils ne se rendent même pas compte que leurs données ne sont plus seulement sur leur téléphone, mais sont également ailleurs. Et un piratage de ce cloud fait que tout se retrouve sur Internet. Il y a vraiment un problème d'information et de prise de conscience des gens de ce qu'ils signent réellement et de ce qui y est fait de leurs données. Donc c'est vraiment un des problèmes fondamentaux.
Stanislas Sabatier, c'est important de rappeler qu'un cloud, c'est de l'espace disque dur que vous avez quelque part sur la toile. Cet espace disque dur, il coûte cher. Et donc, si on vous ne le fait pas payer directement, c'est qu'on vous le fait payer indirectement.
Oui, et puis il y a un problème de où se trouve ce stockage. En l'occurrence, Dropbox, c'est une société de droit américain. Donc, ça veut dire que les données que vous sauvegardez sur Dropbox se retrouvent sur des serveurs aux États-Unis sous la juridiction américaine. Ce qui fait que vos données ne sont pas du tout protégé par les règles de droit que nous avons en France, qui ne sont pas les meilleures du monde, enfin qui sont déjà un peu plus protectrices. Donc au-delà de l'aspect purement contractuel, quel rapport j'ai avec le fournisseur de services, au-delà de l'aspect technique, comment les données sont-elles protégées, il y a l'aspect juridique, sous quelle juridiction je suis.
Lionel Allorge.
On peut citer aussi une alternative intéressante qui est l'association Framasoft, qui depuis peu de temps propose un certain nombre de services en ligne équivalent aux grandes firmes, mais qui, eux, à la différence de ces firmes, se financent par des dons des utilisateurs. Et en plus, ont mis en ligne une charte de respect des droits des utilisateurs, ce qui est vraiment l'opposé de ce que font les grands groupes qu'on vient d'évoquer.
Donnez-nous des exemples, justement.
Eh bien, par exemple, ils vous proposent de pouvoir rédiger des textes à plusieurs sur ce qu'on appelle un pad. Et ça, ce service, il est gratuit. Mais en échange, on vous propose de donner à l'association pour pouvoir financer cette utilisation. Et ils ont des centaines de milliers de pads qui sont ouverts pour les utilisateurs.
Une question de deal. On a beaucoup parlé de soft. Si on parle cette fois-ci de matériel, est-ce qu'il y a un matériel, autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux être PC ou Mac dans l'optique de préserver sa vie privée, sa confidentialité? Ou est-ce que c'est Carib et Scylla?
Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de ce qu'on pourrait appeler le matériel libre, c'est-à-dire on n'a pas accès à des ordinateurs dont on connaisse tous les plans et les structures. Il y a des travaux qui sont faits dans ce sens, mais j'aurais tendance à dire que les PC sont pour l'instant la meilleure direction possible, parce qu'il y a de très nombreux fabricants, ce qui fait que des gens un petit peu connaisseurs peuvent assembler leur PC eux-mêmes à partir de pièces détachées, alors qu'un Mac, on est obligé d'acheter chez Apple.
Et pour les smartphones ?
Et pour les smartphones, il y a des alternatives qui commencent à arriver. La fondation dont on parlait tout à l'heure, Mozilla, commence à proposer un système d'exploitation libre pour smartphones.
Très rapidement, Adrienne Charmette-Alix, Jean, qui est en Alsace et qui est inspecteur des impôts, nous dit quels sont les liens entre Internet et les gouvernements. Le gouvernement français regarde nos mails.
Alors, ça, on n'en sait rien. C'est fort probable. C'est fort probable. On a beaucoup tapé sur les Américains. Je pense qu'on serait assez inquiet de...
Le Monde a sorti un article cet été sur ce sujet, entre les rapports entre Orange et Orange, les ingénieurs d'Orange, tous plus ou moins... à coquiner avec la DGSE.
Voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce qui se passe. Et puis, il y a un certain nombre de législations en cours de vote actuellement qui montrent que le gouvernement français a très, très, très envie de surveiller et de contrôler ce qui se passe. Ça fait quelques années que les législations sur tout ce qui est services de renseignement, surveillance, terrorisme, etc., vont dans un sens de contrôle et de surveillance de l'Internet. Je crois qu'il faut malheureusement pas se leurrer et en avoir bien conscience dans nos choix politiques.
Donc dans nos choix politiques, il y a le logiciel libre. C'est important en conclusion, Lionel Allorge, de rappeler que c'est un choix politique.
Oui, c'est un choix politique et on l'a vu récemment avec un accord qui a été passé par le ministère de la Défense français et Microsoft. Donc c'est un accord qu'on appelle Open Bar qui autorise les services à prendre les logiciels qu'ils le souhaitent. Et ça, c'est très problématique parce que ça veut dire que le ministère de la Défense se livre pieds et poings liés à une société américaine.
Merci beaucoup d'avoir été ce matin. Je rappelle donc très rapidement Quant.com, un moteur de recherche, Melden, ce système donc d'email sécurisé, et les logiciels libres grâce à April.org. Vous êtes un logiciel libre, Nagui, n'est-ce pas ?
Totalement libre.
Mais à un point, on ne peut pas savoir. Parler, de présenter.
Tout.
Qu'est-ce que vous allez nous présenter tout à l'heure ?
On vous concocte une émission avec Omar Sy qui va venir nous parler de Samba, le très bon film qui sortira mercredi. Et en live, James Vincent McMorrow. Ça fait beaucoup pour un seul homme qui sera seul piano-voix, mais qui a une voix absolument sublime qui va vous donner la chair de poule, mon cher Guillaume.
Et bon, on va écouter tout ça. À tout de suite.
À tout de suite.
Après les informations, Nagui.